Bonsoir, comment allez-vous ? Le journaliste Pierre Vavasseur a posté sur la toile une photo de sa brassée de livres tombés dans sa boîte aux lettres. Tomber n'est pas le mot, pousser plutôt. Il s'agit de culture. Lire est son métier. Lire, c'est une affaire incroyable. Une affaire d'humain. Le soir, je jalouse mon chien quand je le vois flairer avec une telle concentration les pipis du jour. Je sais qu'il y trouve des informations capitales ou réjouissantes. Moi, ça ne me réjouit pas les pipis de mes congénères sur le trottoir. Ça me dégoûte. Et je n'ai pas du tout envie d'aller flairer plus avant celui qui l'a fait. Du coup, je me trouve handicapée de ne pas savoir lire dans le pipi. Mais je sais lire dans les livres. Notre force à nous, les humains, c'est de pouvoir lire. Notre chance, c'est de savoir. George Danson, originaire du sud des États-Unis, a appris à lire à 98 ans. À 4 ans, il travaillait déjà. Né à la fin du 19e siècle, il est mort au tout début du 21e à 103 ans. Avec l'écrivain Richard Glomman, il raconte sa vie dans un livre édité chez Payot qui file une pêche extraordinaire. « Life is good », le livre est traduit en français. Je repense aux critiques littéraires qui lit, et en fait je me demande s'il vaut mieux lire en 2 heures un livre écrit en 2 ans ou bien en 2 ans un livre écrit en 2 heures.
Bonjour, je m'appelle Oscar. Je voudrais savoir pourquoi les gens écrivent sur les murs. Au revoir, merci.
Oscar, nous avons proposé ta question à Françoise Barbegal, qui est historienne de l'art.
Bien, ils écrivent sur les murs pour laisser une trace, d'abord. Alors, on pourrait penser que c'est aussi une manière de raconter des choses à des gens qu'ils ne connaissent pas, qui passeront par là et qui découvriront un mot ou une image ou simplement des traces de couleurs. C'est aussi une façon d'occuper un territoire, de dire voilà, moi, je suis là, je pose quelque chose qui va rester une fois que je serai partie. Et puis, d'autres ajouteront peut-être quelque chose d'autre et ils sauront que je suis passée, que j'existais. Je veux dire que c'est une façon animale de dire je suis là et ce petit espace-là, cette toute petite surface m'appartient au moment où je dessine quelque chose, où je peins quelque chose.
Et voilà de quoi je suis capable ou pas ?
Aussi, voilà de quoi je suis capable, même si on ne me connaît pas, même si... Souvent, ça n'est pas signé, bien sûr. Mais c'est vrai aussi que c'est une façon très ancienne de s'exprimer. On sait déjà que dans l'Antiquité, c'était une pratique courante.
Ah bon ?
Bien sûr, dans les rues de Pompéi, on trouve des graffitis partout.
Je pensais que c'était un phénomène nouveau.
Oui, on croit souvent que c'est un phénomène nouveau, parce qu'on imagine que c'est apparu dans les rues de New York dans les années 60, que c'est une image de la ville moderne. C'est vrai, c'est ça aussi. Peut-être parce que, justement, dans une grande ville, on se bouscule. Alors, sur les murs, les dessins se bousculent aussi. Bien sûr, ça n'est pas, en général, aussi dessiné que sur un tableau. Quand Oscar voit des dessins sur les murs, il peut imaginer que c'est un petit peu fouillis, tout ça, un petit peu brouillon. Mais au fond, ça ressemble un petit peu à du rap, maintenant. C'est une façon de dire les choses avec un autre rythme. Et puis, quelquefois, il y a une couche de bleu, une couche de rouge, une couche de vert, etc., etc. Les gens ajoutent des choses là où sont passés déjà d'autres gens. C'est exactement comme les bruits qu'on entend dans la rue. C'est exactement comme le chaos qu'on entend. C'est aussi les gens, oui, qui passent, qui se bousculent parfois, qui se regardent, qui ne se connaissent pas. Tu vois, Oscar, c'est pour ça qu'on dessine sur les murs.
Vous pouvez trouver les livres de Françoise Barbegal sur le site des Petits Bateaux. Vous pouvez aussi, c'est ouvert jusqu'à 21h, filer à l'aérosol, c'est Porte de la Chapelle, à Paris. Et c'est un musée du graffiti. Il y a une grande étendue devant et il y a plein de food trucks, de camions qui vendent de délicieuses choses à manger. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Allez, parlons un peu des trains, tiens, faute de pouvoir monter dedans.
Bonjour, je m'appelle Marceau et j'ai 3 ans et demi. J'habite à Casablanca, au Maroc. Et quel est le train le plus rapide du monde ? Merci, au revoir.
Parce que tu parles bien, Marceau. 3 ans et demi, Clive Lamming, historien du chemin de fer.
Voilà, Marceau, il faudrait d'abord que nous nous mettions d'accord sur ce que c'est qu'un train. Un train, c'est au moins 2000 personnes dedans, ou je dirais 10 millions de personnes par jour qui le prennent. Alors beaucoup de choses vont plus vite que le train et ne sont pas des trains, comme par exemple les trains à sustentation magnétique sur coussins d'air et autres. Donc parmi les vrais trains, les trains les plus classiques, ceux qui ont beaucoup de gens, ben, je dirais tout simplement c'est le TGV. Il y en a un qui a battu le record en 2007, c'est un essai qu'a fait la SNCF à la vitesse de 578,4 km/h. C'est pourquoi je disais bien, c'est le TGV ou les TGV, ce sont les TGV. Il y en a plus de 700 par jour qui circulent en France et qui vont très vite.
Clive Lamming, ce record dont vous nous parlez, battu par le TGV, c'était entre où et où, si vous vous en souvenez?
Je m'en souviens fort bien, c'était sur la nouvelle ligne de l'Est, la ligne européenne Est, qui aujourd'hui va de Paris à Strasbourg. C'était donc peu avant l'inauguration. Donc c'est un dernier essai qui a été fait, je crois, en avril 2007.
L'historien Clive Lamming sait tout sur les trains et il a tout écrit également sur les trains, les métros, les anciens, les nouveaux. Franceinter.fr.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies où mes frères des forêts ont fondé une famille, comme un arbre dans la ville. Béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison et mes racines, on les recouvre de gris, comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles, comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. D'honneur posthume, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes bras.
C'est vrai qu'ils ne sont pas confort, les arbres dans la ville. C'était Maxime Le Forestier.
Les petits bateaux sur France Inter.
Notre numéro de répondeur est le 01 56 40 43 57 et il attend vos questions.
Bonjour, je suis Antonin, j'ai 20 ans. Est-ce que le longboard, ça peut dépasser les 20 km/h? Au revoir.
Bonjour Antonin, le longboard, les 20 km/h. Erika Schwarfer, vous êtes l'ancienne présidente de l'association Raideuse, qui est donc une association de longboard.
Est-ce que ça peut dépasser les 20 km/h peut-être avant, vous pouvez nous dire ce que c'est?
Oui, tout à fait. En fait, un longboard, c'est tout simplement un skateboard. Donc, ça fait partie de la grande famille des skateboards. Il y a les shortboards, qui sont des planches courtes, et les longboards, qui sont des planches plus longues. Dans les shortboards, il y a la planche de street, que l'on connaît bien en ville, puisque ce sont ces fameuses planches qu'on utilise pour faire des figures, soit sur le plat, soit sur des modules ou du mobilier urbain qui est fait pour. Et le longboard est une planche plus allongée et qu'on utilise plutôt pour d'autres disciplines que la figure, et encore que il y a désormais des disciplines de figure donc sur les longboards. Et on va l'utiliser en descente, donc ce qu'on appelle la descente, qui se pratique sur route de montagne, parce qu'on a besoin de courbes, de grandes lignes droites pour prendre de la vitesse. Et on va atteindre les 100 km/h assez aisément.
Non. Mais alors, il faut un casque.
Alors oui, il y a un équipement. Ouais. Il y a un équipement pour ça. Effectivement, ça ne se pratique pas juste avec son t-shirt et ses baskets. Ouais. Hein. En compétition, mais aussi dans les événements non compétitifs, on va utiliser un casque intégral, une dorsale, des gants et une combinaison en cuir de moto.
D'accord.
Donc, en grosso modo, on est équipé comme pour la moto, mais pour descendre sur un skateboard.
Donc, ça descend à toute vitesse. On part de la station et on arrive dans la vallée.
C'est à peu près ça, oui.
Ouais, et vous disiez que vous aviez, Erika, une histoire.
Oui, parce qu'il y a des records, évidemment. Donc, le dernier record a été obtenu par Kyle Wester aux USA, qui, lui, a atteint... donc, c'était en août 2016, hein, donc c'est vraiment proche. Il a atteint les 143,89 km/h.
Waouh!
Donc, sur une planche qui fait à peu près dans les 80 cm de long. Hein.
Et comment vous vous y êtes mis, vous, Erika Schwarfer, vous habitez à la montagne?
Pas du tout. J'ai rencontré, en fait, l'association dont j'ai été présidente pendant 5 ans, par hasard, sur un forum internet. Ils m'ont invité à venir essayer le longboard, puisque je ne voyais pas, moi, faire des figures sur des modules. C'était pas trop ma tasse de thé. Et voilà, je me suis mise comme ça. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs titres de championne de France de slalom skateboard. Je pratique la descente, mais moi, pas debout sur ma planche. Je la pratique allongée, les pieds devant, sur ce qu'on appelle un buttboard, donc une planche pour les fesses. On regarde la route en relevant le menton, hein, on mène le menton vers la poitrine,
ouais.
On regarde ses pieds et on descend. Et c'est très, très abordable, je veux dire. On peut s'arrêter très facilement, donc on peut freiner beaucoup plus facilement qu'en longboard.
Comment on freine ?
On s'assoit, on se redresse, on s'assoit. On attrape la planche avec les mains, sous les fesses,
oui.
Et on pose nos pieds sur le bitume, avec donc des chaussures qui en général sont doublées de pneus de mobylette. Et on appuie sur le sol et ça freine.
Faut des abdominaux hein, pour arriver à faire ça. Merci beaucoup, ça fait rêver quand même, hein, dévaler cette pente à toute vitesse. Merci beaucoup, Erika Schwarfer. Vincent Alboui, vous l'avez déjà entendu au petit bateau, il est entomologiste.
Bonjour, je m'appelle Zachary. J'ai 8 ans et je voudrais savoir, est-ce que on peut distinguer les chenilles mâles aux chenilles femelles et est-ce que les chenilles mâles et les chenilles femelles existent? Merci de me répondre.
Bonjour, je m'appelle Baptistine, j'ai 11 ans et je voudrais savoir, est-ce que ce sont les papillons ou les chenilles qui se reproduisent? Merci.
Je vois que Baptistine et Zachary sont passionnés par le sexe chez les papillons et les chenilles. Alors, ce sont les papillons qui ont des histoires de sexe. Ce sont les papillons qui sont les adultes, donc qui peuvent se reproduire, donc qui ont des organes sexuels efficaces, performants, enfin, qui ont des organes sexuels tout court. Les chenilles ne sont pas sexuées. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des chenilles femelles et des chenilles mâles parce que les unes ont les gènes pour devenir plus tard un papillon femelle, les autres ont des gènes pour devenir plus tard un papillon mâle, mais en tout cas, ça ne se voit pas, ça peut pas se voir avant la transformation en papillon. Donc, les chenilles ne peuvent pas se reproduire, elles ne peuvent se reproduire que par les papillons qu'elles vont donner plus tard, après la chrysalide.
Ça se reproduit voilà. Comment, un papillon?
Alors, un papillon, ça s'accouple, mâle femelle, et ça pond des œufs, et après, de ces œufs sortent les chenilles. Alors, on est là dans le développement assez passionnant des insectes à métamorphose complète, où en fait, on a deux individus qui se succèdent au cours d'une même vie. Dans l'œuf, il y a des cellules embryonnaires qui, pour une partie, vont se développer pour donner la chenille. Mais cette chenille va contenir des petits morceaux des bourgeons, en quelque sorte, d'embryons qui vont rester dans son corps. Quand elle aura fini de grossir, elle va se transformer en nymphe, c'est-à-dire elle va muer et elle va devenir, elle va prendre cette forme caractéristique, on dirait une momie égyptienne un peu, où on voit dessiner d'ailleurs le futur papillon. Et donc cette nymphe, à l'intérieur, tous les tissus de la chenille vont s'hydrolyser, vont devenir liquides, c'est-à-dire que ça va refaire comme la nourriture d'un œuf. Et à partir des bourgeons dont j'ai parlé, des bourgeons d'embryons qui restent, ces bourgeons vont se développer en utilisant ce matériau et vont donner le papillon. Donc en fait, on peut dire que dans un papillon, il y a deux individus qui se succèdent. La chenille ne devient pas vraiment un papillon, la chenille disparaît pour que l'œuf continue à se développer pour donner la deuxième partie qui est le papillon.
Alors que nous, on nous disait petit, la chenille se transforme en papillon, c'est pas tout à fait ça.
Voilà, d'un point de vue scientifique, c'est pas ça. La chenille disparaît, et c'est ce qui reste de l'œuf sous forme embryonnaire qui redémarre pour donner le papillon. C'est pour ça que la chenille peut être si différente du papillon, parce que finalement, ce qu'a vécu la chenille, le papillon, ça lui sert pas, et inversement. Donc il n'y a pas de mémoire. Un papillon ne se souvient absolument pas de sa vie de chenille. C'est une nouvelle naissance, là. L'émergence.
Alors ça, Vincent Albouy, pour nous profanes, c'est un scoop. Il y a deux bêtes qui se succèdent. C'était le groupe Hills. Vous écoutez Les Petits Bateaux sur France Inter et c'est une bonne idée. Elena Ferrante, dans sa série L'Ami prodigieuse, qui sont maintenant pour la plupart en format poche chez Folio, décrit un tremblement de terre à Naples qu'elle vit avec son ami. C'est très, très impressionnant.
Je m'appelle Titouan et j'ai 5 ans. J'aimerais bien savoir, quand il y a un tremblement de terre, pourquoi la terre, elle tremble quand il y a un tremblement de terre. Au revoir.
Bonsoir Titouan. Christophe Vigny, effectivement, ce mot qui semble impressionner Titouan, tremble, le verbe trembler. Effectivement, quand nous on tremble, ça ressemble pas forcément à ce que fait la Terre, si, c'est ça qui l'inquiète.
Oui, oui, la Terre tremble.
Ah, vraiment ?
Et c'est effectivement impressionnant. Nous, en France, on a de la chance, on n'a pas beaucoup, en France métropolitaine, on n'a pas beaucoup de tremblements de terre, et peu d'entre nous en ont vraiment ressenti. Mais quand on en ressent un pour la première fois, c'est très impressionnant. La Terre tremble.
Mais vraiment tremble ? C'est-à-dire que plein de milliers mini-secousses, pas une grosse secousse ?
Il y a de tout. Mais un tremblement de terre, c'est un choc qui se produit quelque part dans la Terre, dans l'écorce terrestre, à cause de la tectonique des plaques. Les plaques bougent et se frottent les unes contre les autres. Et aux endroits où elles s'accrochent, de temps en temps, ça casse. Et comme quand vous cassez un morceau de bois, vous appuyez une grande force, le bois plie, et puis casse d'un seul coup. Et au moment où il casse, vous entendez du bruit.
Oui.
Alors, si vous multipliez ça par des milliers et des milliers, ça fait un très grand bruit. Et ce grand bruit, ça émet des ondes sonores. Alors, un tremblement de terre va émettre des ondes, comme un bruit. C'est plus compliqué, c'est ce qu'on appelle des ondes sismiques. Et ces ondes sismiques, il y en a de plusieurs natures. Il y a des ondes de compression, qui sont comme les ondes sonores. Il y a des ondes de cisaillement. Et puis après, il y a des ondes de surface. Alors, chacune de ces ondes, elle vibre d'une manière un peu différente, et elle fait trembler la terre d'une manière un peu différente. Et les gens qui ont l'habitude, les gens qui vivent dans les pays sismiques, Titouan, je ne sais pas si c'est ton cas, mais si tu vis au Japon, en Californie, au Chili, où il y a beaucoup de tremblements de terre, les gens sentent la différence entre toutes ces ondes. La première onde qui arrive, c'est ce qu'on appelle l'onde P, en termes savants, c'est une onde de compression, c'est comme l'onde sonore dont on parlait tout à l'heure. C'est un choc qui vous fait monter et descendre. Et puis, un peu après, parce qu'elle voyage plus lentement, arrivent les ondes de cisaillement. Et là, vous vous sentez bouger de droite à gauche. C'est un peu différent. Et donc, avec de l'expérience, avec de l'habitude, vous sentez d'abord l'onde P, et puis après l'onde S. Et comme avec la foudre, où on voit d'abord la lumière, et ensuite on entend le coup de tonnerre, parce que ça voyage plus lentement, en comptant le temps entre les deux, on peut dire que la foudre est tombée à une certaine distance. Oui. On peut faire pareil avec les tremblements de terre. Si on sait repérer le moment où arrive l'onde P, puis on sait repérer le moment où arrive l'onde S, le décalage entre les deux, tant de secondes entre les deux, il suffit de compter, une, deux, trois, alors on arrive à savoir à quelle distance de nous est le tremblement de terre. Et puis après arrivent les ondes de surface, qui se propagent le long de la surface de l'écorce, et alors là ça bouge dans tous les sens. Et pour les plus grands tremblements de terre, hein, les beaux, les très très grands, qui sont assez rares, il y en a une fois tous les 10 ans. Le plus gros, il était au Chili en 1960, magnitude 9,5. Ça fait des mouvements de la surface de la Terre qui sont de plusieurs mètres. C'est comme des vagues. La surface du sol monte et descend de plusieurs mètres. Et alors là, c'est des tremblements et ça dure pendant des minutes. Donc, c'est des tremblements vraiment très forts. Pour les plus petits tremblements de terre, ceux qui produisent très souvent ou éventuellement, même en France, on a des magnitudes 4. C'est des toutes petites vibrations. On entend la vaisselle qui vibre ou des choses comme ça. Ça tremble comme un camion qui passe dans la rue. C'est tout à fait étonnant de voir que les gens qui vivent dans des pays sismiques peuvent vous décrire un tremblement de terre avec leurs mots à eux, qui ont beaucoup de pertinence. Ils savent si le tremblement de terre est profond ou superficiel parce qu'ils ont senti des ondes plus sèches, plus énergétique, des vibrations plus rapides. Alors en termes savants, on parlera de contenu fréquentiel, on parlera de rougissement du spectre, etc. Mais les gens ont senti ces choses-là et peuvent vous décrire des événements qui sont différents.
C'est impressionnant, hein ? Christophe Vigny est directeur de recherche au CNRS, il est aussi directeur du laboratoire de géologie de l'École normale supérieure de Paris. Marjorie Devoucou, Eliane Gérard, Noël Bréham pour les filles, Jean-Baptiste Audibert et Florent Layani pour les garçons. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30 sur le site des Petits Bateaux par franceinter.fr. Vous trouverez des belles choses. Pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chessou pour La Tulu, mon petit loup.